Alors, imaginez une rue, n'importe laquelle, hein, à 3 heures du matin. Il n'y a personne.
Personne.
Pas une voiture, pas un chat. Et pourtant, les lampadaires brillent de mille feux.
Ils éclairent un bitume complètement désert.
C'est un gaspillage énorme et c'est un peu le paradoxe que des villes du monde entier essayent de résoudre aujourd'hui.
Oui.
Comment garantir la sécurité et le confort avec la lumière sans jeter l'énergie par les fenêtres?
C'est exactement le nœud du problème. Et pendant longtemps, on a cru que la seule solution, c'était de choisir de meilleures ampoules.
Oui.
Mais la vraie révolution, en fait, elle n'est pas dans l'ampoule elle-même. Elle est dans l'intelligence qu'on met tout autour.
Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Nos sources pour cette discussion sont assez techniques. On a une fiche bilan très complète et une carte mentale qui schématise tout le projet.
D'accord.
Notre mission, c'est de traduire tout ça. On va voir ensemble comment fonctionne un système d'éclairage public intelligent, de la plus petite diode jusqu'au programme informatique qui tire les ficelles.
Et ce qui est passionnant, je trouve, c'est qu'on va voir que derrière la technologie, il y a des concepts qui sont finalement très logiques.
Presque intuitif.
Presque intuitifs, oui.
On va vraiment assembler le puzzle pièce par pièce pour comprendre comment on est passé d'un éclairage bête qui s'allume et s'éteint avec le soleil à un système qui s'adapte en temps réel à la vue de la ville.
On passe de l'illumination à l'intelligence.
C'est ça. Alors, commençons par la base, le plus visible, l'ampoule. Les documents montrent une évolution très nette. Je me souviens des lampes fluo compactes.
Ah oui.
On nous les présentait comme une révolution écologique à l'époque.
Tout à fait.
Mais elles ont à peine duré 10 ans avant que les LED ne déferlent. Est-ce que c'était une fausse bonne idée, finalement?
Pas une fausse bonne idée, non. Je dirais plutôt une étape intermédiaire. C'était déjà une très nette amélioration par rapport aux vieilles lampes halogènes.
Qui chauffaient plus qu'elles n'éclairaient.
Exactement. De vrais petits radiateurs. La fiche technique le montre bien. Une halogène, c'est 15 à 25 lumens par watt. L'efficacité est très faible.
D'accord.
La fluo compacte, elle, a fait un bond en atteignant 50 à 70 lumens par watt. C'était déjà 2 à 3 fois mieux.
Donc c'était un vrai progrès. Mais alors, qu'est-ce qui rend la LED si spéciale pour qu'elle ait tout balayé comme ça?
C'est qu'elle ne représente pas juste une amélioration. C'est un véritable saut de performance. Les sources indiquent une efficacité de 80 à 120 lumens par watt.
Ah oui, quand même.
Et aujourd'hui, on fait même mieux. On parle d'une technologie qui est 4 à 5 fois plus efficace que ce qu'on avait il y a à peine 20 ans.
C'est un changement d'échelle complet.
Oui, c'est un peu comme passer de la charrette à la voiture électrique en une seule génération technologique.
Un saut quantique. Ces chiffres sont impressionnants, mais pour une municipalité qui gère des milliers de lampadaires, ça se traduit comment sur la facture?
Les sources proposent un tableur pour ça. Ben, c'est l'argument massue. La formule est toute simple. L'énergie consommée, c'est la puissance de l'appareil multipliée par sa durée d'utilisation.
D'accord.
Le tableur y permet de simuler ça à grande échelle. Et quand un gestionnaire voit qu'en changeant une ampoule de 150 watts par une LED de 40 watts qui éclaire aussi bien,
Il divise sa consommation par presque 4.
voilà, pour un seul lampadaire. Multiplier ça par 10 000 lampadaires qui fonctionnent 4 000 heures par an.
Les économies deviennent colossales.
Et c'est ça qui finance tout le reste, tout le système intelligent.
Mais voilà, on y vient. Parce que même la meilleure ampoule du monde, si elle reste allumée pour rien, ça reste du gaspillage.
Bien sûr.
Avoir un muscle puissant, c'est une chose. Mais il est inutile sans un cerveau pour lui dire quand agir. C'est là que l'intelligence du système entre en jeu, j'imagine. Comment t'appelles la chaîne d'information? La chaîne d'information.
C'est le système nerveux du lampadaire. Sa mission est simple, percevoir le monde autour de lui et prendre une décision. Le schéma le décompose en 3 verbes très clairs. Acquérir, traiter, communiquer.
D'accord. Un système nerveux. Ça me fait penser à un réflexe humain. On touche un truc chaud, la main sent l'info, le cerveau commande de la retirer, sans même y penser.
C'est une excellente analogie.
Alors, comment ça marche pour un lampadaire? Quels sont ses sens?
C'est la première étape, acquérir. Les sens du lampadaire, ce sont ses capteurs, les sources en ci-de-deux qui sont très parlants.
Oui.
D'abord, un capteur de luminosité. C'est en quelque sorte son œil pour savoir s'il fait jour ou nuit. Et puis, un détecteur de présence pour savoir si quelqu'un passe à proximité.
Il sent son environnement, en fait.
Exactement.
Et une fois qu'il a capté cette information, il doit l'interpréter. Et là, je vois dans les documents qu'on distingue deux types d'informations, l'analogique et la logique. Ça a l'air un peu abstrait.
En réalité, c'est très concret. Pensez à l'éclairage de votre salon.
D'accord.
L'information analogique, c'est comme un variateur d'intensité. Vous pouvez choisir n'importe quel niveau de lumière entre éteint et plein pot.
Il y a une infinité de possibilités.
Voilà. Le capteur de luminosité du lampadaire fonctionne comme ça. Il mesure une valeur qui change continuellement tout au long du crépuscule.
Alors que l'information logique, si je suis le raisonnement, ce serait juste l'interrupteur classique.
C'est ça.
C'est allumé ou c'est éteint. Un point, c'est tout. C'est bien ça.
C'est exactement cette idée. L'information logique n'a que deux états, 0 ou 1, vrai ou faux. Le détecteur de présence est l'exemple parfait. Soit il y a présence, état 1, soit il y a non-présence, état 0.
Pas d'entre-deux.
Aucun. Et c'est cette simplicité binaire, ce on-off, qui rend les décisions de la machine si rapides et si efficaces.
Bon, alors le système a ses informations. Il sait s'il fait nuit et si une personne approche. C'est l'étape traitée, le cerveau qui entre en action.
Oui.
Comment est-ce qu'on passe de « je détecte quelqu'un » à l'ordre « allume la lumière » ?
Le traitement se base sur une structure fondamentale en programmation, l'instruction conditionnelle.
Le fameux « si, alors, sinon ».
Exactement. Les sources montrent un exemple de programmation visuelle du type Scratch qui est très clair. Si la condition X est vraie, alors fais l'action A, sinon fais l'action B. C'est le cœur de toute décision automatisée.
Donc, pour notre lampadaire, la règle pourrait être quelque chose comme « s'il fait nuit et si une présence est détectée, alors allumez la lumière à 100%. »
Par exemple, oui.
Sinon, la laisser à un niveau de veille de 20%.
Exactement. Et le « et » que vous venez d'utiliser est absolument crucial. Il nous amène au langage mathématique de la machine, la logique booléenne.
Ah, ça sonne compliqué.
C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Pensez-y comme à une recette de cuisine.
Une recette, j'aime bien l'idée.
La fonction « et », c'est quand la recette dit « ajoutez la farine et les œufs ». Vous devez mettre les deux ingrédients pour que le gâteau réussisse.
Si un seul manque, c'est raté.
Voilà. Pour le lampadaire, il faut qu'il fasse nuit, condition 1, et qu'il y ait un passant, condition 2, pour qu'il s'allume à fond.
D'accord, c'est clair. Et la fonction « ou » alors ?
La fonction « ou », elle est plus flexible. C'est la recette qui dit « ajouter des pépites de chocolat ou des noix ».
L'un ou l'autre suffit ?
L'un ou l'autre, ou même les deux. Le seul cas où ça ne marche pas, c'est si vous n'avez ni l'un ni l'autre. On pourrait imaginer qu'un lampadaire s'allume si un passant est détecté ou si un bouton d'urgence est activé.
Une seule des deux conditions suffit.
C'est ça. Et c'est ce langage ultra simple qui permet de créer des scénarios très sophistiqués.
Attendez, mais c'est fascinant. Si je comprends bien, toute la logique complexe qui gère l'éclairage d'une ville repose sur ces mêmes principes de base. Et où ?
Oui, oui.
Plus utilisé au lycée pour faire des recherches sur Google. C'est fou de penser que c'est aussi simple à la racine, quoi.
C'est la beauté de la chose. Des briques de base, très simples, permettent de construire des édifices très complexes.
Mais tout ce système, capteur, programmation, condition, ça semble incroyablement compliqué par rapport à un simple interrupteur crépusculaire qui allume tout, toute la nuit. Est-ce que ça ne risque pas de tomber en panne plus souvent ?
C'est une excellente question. Et c'est le principal frein que les municipalités ont pu avoir au début, la peur de l'usine à gaz.
Oui.
La réponse est en deux temps. D'abord, ces composants sont aujourd'hui extrêmement fiables. Mais surtout, cette complexité... C'est elle qui permet de passer d'une économie de 50% à une économie de 80 ou 85%.
Ah, d'accord.
Le simple passage au LED divise la consommation, mais l'intelligence, c'est-à-dire n'éclairer fortement que les 5% du temps où c'est vraiment utile, c'est là qu'on va chercher les gains les plus spectaculaires.
C'est un changement de paradigme.
Tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'ai travaillé avec une ville qui venait d'installer ce système. Les premières semaines, le standard téléphonique a été inondé d'appels.
Ah bon, hein ?
Des citoyens inquiets, parfois en colère, parce que les nouveaux lampadaires ne marchaient plus.
Alors qu'en fait, ils fonctionnaient parfaitement.
Exactement. Ils restaient en veille quand il n'y avait personne. Il a fallu toute une campagne de communication pour expliquer aux gens que l'obscurité relative, parfois, c'est le signe que la technologie fonctionne à merveille.
C'est une super histoire. Ça montre à quel point on doit changer nos habitudes de pensée. Le noir n'est plus synonyme de panne, mais d'intelligence.
C'est ça.
Donc, pour revenir à notre chaîne, on a acquérir les infos, traiter la décision. La dernière étape, c'est communiquer. J'imagine que c'est là que l'ordre est envoyé.
C'est ça. Le cerveau a plus sa décision, il envoie un signal. Dans notre cas, c'est un ordre très simple. Allume-toi ou mets-toi en veille.
D'accord. Mais à qui envoie-t-il cet ordre ?
Il l'envoie à l'autre moitié du système, la chaîne d'énergie.
Ah, on y vient. Donc on a le système nerveux, la chaîne d'information, et maintenant on passe au système musculaire.
C'est la métaphore parfaite. La chaîne d'énergie, c'est celle qui exécute l'action. Le schéma, dans nos sources, la décompose aussi en plusieurs fonctions.
On écoute.
La première, c'est alimenter. C'est la prise de courant, le réseau électrique de la ville, qui fournit la puissance brute.
Logique. Ensuite, je vois la fonction distribuer. Si je suis votre logique, c'est là que le pont se fait entre les deux chaînes, non?
C'est le point de connexion crucial. Distribuer, c'est la porte d'entrée de l'énergie, l'interrupteur, si vous voulez.
D'accord.
Et c'est la fonction communiquer de la chaîne d'information qui vient donner un ordre à cet interrupteur. Ouvre-toi ou ferme-toi. L'ordre immatériel du cerveau se traduit par une action physique. Laissez passer le courant.
L'intelligence qui commande la puissance.
C'est exactement ça.
Et une fois que le courant passe, les deux dernières étapes semblent couler de source.
Oui, tout à fait. La fonction convertir, c'est la lampe LED elle-même qui reçoit l'électricité et la transforme en ce qu'on veut vraiment.
De la lumière.
De la lumière. Et enfin, transmettre, c'est s'assurer que cette lumière est bien utilisée. Pour un lampadaire, c'est le rôle du réflecteur qui va diriger le faisceau vers le sol, là où on en a besoin.
Plutôt que de le laisser s'échapper vers le ciel et...
contribuer à la pollution lumineuse, chaque étape vise à optimiser l'efficacité.
Quand on met tout ça bout à bout, la carte mentale qui est dans nos sources prend tout son sens. Elle met le projet éclairage public au centre et on voit toutes ces briques graviter autour.
C'est une très bonne synthèse visuelle.
Les ampoules, le tableur pour la rentabilité, la chaîne d'infos qui pense, la chaîne d'énergie qui agit et le programme qui les relie.
Et cette carte ajoute une dimension qu'on ne doit jamais oublier. Les contraintes du monde réel.
C'est-à-dire ?
Un projet comme celui-ci doit respecter des normes d'éclairage très strictes pour la sécurité. Il a un budget défini et il s'inscrit dans des objectifs environnementaux. Le meilleur système n'est pas seulement le plus intelligent technologiquement.
C'est celui qui coche toutes les cases.
Voilà. La technologie est un outil au service d'un besoin. Ce n'est pas une fin en soi.
Donc, si on résume notre discussion, l'éclairage public efficace d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout une question de visser une bonne ampoule au sommet d'un mât.
Non, ça c'est fini.
C'est un écosystème complet. Il a des sens pour percevoir son environnement, un cerveau pour prendre des décisions logiques et des muscles pour gérer l'énergie de manière chirurgicale.
C'est une synthèse parfaite. L'intelligence est vraiment dans l'articulation de tous ses composants, dans la fluidité de la communication entre le cerveau et les muscles.
Pour finir, quelle est la prochaine frontière ? Après l'éclairage intelligent, qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Vous savez, en parlant, ça soulève une question intéressante. Le système qu'on vient de décrire est fondamentalement réactif.
Réactif.
Oui, il réagit à un événement qui se produit dans le présent. La nuit tombe, un piéton passe.
D'accord.
La prochaine étape, la prochaine évolution, ne serait-elle pas un système qui apprend et qui anticipe ?
C'est-à-dire ?
Un système prédictif.
Exactement.
Un éclairage qui, en analysant les données de passage sur des semaines et des mois, pourrait prévoir les flux. Il saurait que le vendredi soir, à 23h, la sortie du cinéma va générer du passage sur telle rue et il augmenterait l'éclairage de manière préventive.
Il n'attendrait plus le premier passant ?
Voilà. Il saurait qu'à 5h du matin, les premiers employés municipaux commencent leur tournée et ils pourraient illuminer leur trajet à l'avance. On ne serait plus dans l'éclairage intelligent,
mais dans l'éclairage prédictif.
C'est ça. La ville s'adapterait non pas à ce qui se passe, mais à ce qui va se passer.